Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale
infernale.
Et oui, la matinale infernale en est à sa quatrième saison. Et comme il est un petit peu tôt, eh bien, n'oubliez pas que c'est l'émission qui dynamite votre réveil. Le principe, c'est de former des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio à travers une série d'ateliers qui se déroulent à la Bibliothèque Saint-Corneille, en classe lorsque je travaille avec des établissements scolaires ou dans un autre lieu insolite. En l'occurrence, on a eu plusieurs sessions à l'atelier de la Dame aux Fleurs en centre-ville de Compiègne. Après ces ateliers d'écriture, eh bien nous enregistrons nos productions sous forme d'émissions. Il s'agit donc de notre matinale infernale. Moi, c'est Aurore. J'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite, comme La Voix de la Plume, le Rendez-vous Culture des Bibliothèques de Compiègne ou le Tilt Show. Ce matin, avec moi, dans le studio, eh bien nous avons la marin baladeuse qui est avec nous.
Bonjour.
Nous avons Bertil.
Bonjour.
Elsa.
Bonjour.
Et Batcave.
Hello.
Et nous allons commencer en douceur ce matin avec la marin baladeuse.
C'est un petit chemin qui sent la noisette. Ce petit chemin n'a ni queue ni tête.
Bonjour à toutes et à tous. La marin baladeuse et gourmande vous invite de nouveau à cheminer aux côtés de Marcel Proust et à déguster, peut-être. Peut-être pas. Faisons un nouveau voyage. Ici, point de mer, mais le Loir, rivière du centre-ouest de la France, traversant quatre départements, dont l'Eure-et-Loir, aux environs de Chartres. Vous situez ?
À peu près, quoi.
Ce qui nous intéresse est un petit village coincé entre la Beauce et le Perche, anciennement nommé Illiers, devenu il y a un peu plus de 50 ans, en 1971, Illiers-Combray. Pourquoi ? Il s'agit de la seule commune française à avoir adopté un nom emprunté à la littérature. Proust ayant baptisé dans « À la recherche du temps perdu », Combray, son village de vacances Illiers. Marcel renomme aussi Vivonne le Loir. Qui dit village, rivière, dite église, à l'ombre de laquelle Marcel Proust vint entre 6 et 9 ans passer ses vacances chez sa tante Léonie. Cette magnifique église de village possède une charpente peinte qui émerveille. Pressez l'interrupteur à côté de la porte d'entrée pour illuminer cette sublime charpente. Dans cette église, la famille Proust s'installait toujours au même emplacement. Un petit écriteau l'identifie. Asseyez-vous, et peut-être alors vous sentirez-vous Proust, le temps d'un instant. Lors de ses séjours, Marcel suivait son oncle au pré Catelan, renommé Parc de Tansonville. C'est d'ailleurs là qu'on y trouve l'allée d'Aubépine, ainsi décrite dans Du côté de chez Swann. Ce parfum d'Aubépine qui butine le long de la haie où les églantiers le remplaceront bientôt, un bruit de pas sans écho sur le gravier d'une allée, une bulle formée contre une plante aquatique par l'eau de la rivière et qui crève aussitôt. Mon exaltation les a portés et a réussi à leur faire traverser tant d'années successives, tandis qu'alentour, les chemins se sont effacés et que sont morts ceux qui les foulèrent et le souvenir de ceux qui les foulèrent. Je résume. Dans « À la recherche du temps perdu », Illiers devient Combray, le Loir devient Vivonne, et le pré-Catelan devient le parc de Tansonville. Après 1880, la santé fragile de Marcel se dégrade. Les crises d'asthme s'accentuent lors de ses visites à Illiers. La famille Proust dut renoncer aux vacances familiales. La maison de tante Léonie s'est vidée, puis est devenue le musée Marcel Proust. Son portail bleu est toujours surmonté de la clochette décrite ainsi dans le roman. Les soirs où, assis devant la maison sous le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin, non pas le grelot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé, toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant sans sonner, mais le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers. Tout le monde aussitôt se demandait. Une visite ? Qui cela peut-il être ? Mais on savait bien que cela ne pouvait être que Monsieur Swann. Monsieur Swann se serait-il baladé sur un chemin qui traverse Illiers-Combray ? Celui qui mène en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur ce chemin, qu'aurait-il pensé ? Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. À bientôt.
Merci la marin baladeuse. C'était un doux moment pour se réveiller sur ce chemin d'Indre-et-Loire.
Merci.
On va passer avec un autre sujet, un peu plus scientifique, grâce à notre ami Bertil.
Le climat et son fameux changement. Que nous dit le rapport du GIEC 2023 ? Le GIEC est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il produit à peu près tous les 4 ans un rapport détaillé sur les connaissances actualisées et les risques climatiques. Voyons ce qu'il raconte dans les grandes lignes, disons les 5 plus importantes. 1. Les concentrations dans l'atmosphère des principaux gaz à effet de serre, carbone, CO2, méthane et autres, a continué à augmenter à cause de l'utilisation des combustibles fossiles, charbon, pétrole et des feux de forêt. 2. Le niveau moyen de la mer a augmenté, mais pas de façon uniforme sur toute la planète. 3. L'étendue de la banquise arctique a diminué. 4. L'eau de mer est de plus en plus acide. 5. La température moyenne mondiale montre une hausse spectaculaire. Revenons à l'effet de serre. Il est lié au rayonnement, c'est-à-dire à l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques. La Terre reçoit du rayonnement du Soleil, certes, mais il en reçoit 2 fois plus de l'atmosphère contenant des gaz et de l'eau que du Soleil. Donc, plus il y a de gaz et d'eau dans l'atmosphère, plus le rayonnement est intense. Ce qui réchauffe la Terre, qui émet à son tour plus de rayonnement, donc plus de chaleur, etc. Vous voyez le cercle vicieux ? Le mécanisme infernal, eh bien c'est cela, l'effet de serre. Est-ce vraiment une mauvaise chose, le réchauffement ? Il y a des avantages. Moins d'énergie pour chauffer les bâtiments, des terres autrefois stériles aux hautes altitudes qui pourront être cultivées, moins de souffrances liées aux coups de froid. Mais il y a le revers de la médaille. On assistera à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, des zones fertiles deviendront stériles et nous aurons plus de mildiou dévastateurs. Il y aura aussi des périls qui nous guettent, que nous connaissons déjà, l'élévation du niveau de la mer, plus de pluies, d'ouragans, d'inondations et de sécheresses. Il y aura donc des gagnants et des perdants. Quelles sont les options pour se sortir de ce problème ? Elles se divisent en 3 grandes catégories. 1. Réduire les émissions des gaz à effet de serre, ce qu'on appelle l'atténuation. 2. Apprendre à vivre avec les conséquences, c'est l'adaptation. 3. Développer des technologies susceptibles d'éviter les problèmes engendrés par les gaz à effet de serre. C'est le sujet de la géo-ingénierie. Que préconise le GIEC 2023 ? Il met l'accent sur l'importance et les avantages d'une action immédiate et sur la nécessité d'un changement systémique, notamment l'adaptation des comportements et des modes de vie, le développement durable ainsi que l'engagement politique et le financement. Les enjeux du climat, de l'énergie et de la prospérité sont liés et ne peuvent plus être envisagés séparément. Le changement climatique est le défi de l'humanité. À bientôt.
Et pour attendre le prochain rapport du GIEC, du coup, il faudra attendre encore 2 ans. C'est ça, hein, c'est ça que tu as dit, c'était tous les 4 ans.
Oui.
Ok. Eh bien, écoute, on espère qu'entre le dernier et le prochain, il y aura eu des avancements. Hein. Mmh. Et puis, on y travaille tous un peu à notre portée, en tout cas. J'espère. Enfin, moi, j'y travaille à ma portée. Après, chacun prend sa responsabilité. mais je trouve que dans l'ensemble, il y a eu une conscientisation des problématiques du climat au niveau des individus. Ce qui est déjà bien.
Ouais, mais peut-être pas sur toute la planète, c'est un petit peu le sujet.
Eh oui, c'est vrai aussi. Et puis il faut que ça se réveille, comme tu disais à la fin, au niveau politique aussi, pour que ça soit de plus grande ampleur. En tout cas, il y a de quoi faire. On va faire une petite pause musicale, une musique que vous avez choisie, chère chroniqueuse. Il s'agit de Marianne Faithfull avec la balade. The Ballad, pardon, of Lucy Jordan.
Thank you.
Et nous sommes de retour sur Graphite dans la matinale infernale. Que j'aime ce bruit d'explosion. Eh bien, on va continuer en voyageant un petit peu grâce à Elsa.
Lors de ma dernière chronique, je vous avais promis une chronique sur les traditions au Japon. Eh bien, chose promise, chose due. Alors ouvrez grand vos oreilles et plongeons ensemble dans les coutumes plus ou moins connues du pays du soleil levant. Pour commencer, j'aimerais vous parler de la mythologie japonaise. C'est une branche assez obscure de ce pays célèbre, contrairement aux mangas, animés, cérémonies du thé et autres choses emblématiques du Japon. On a tous à l'esprit la mythologie grecque, romaine ou encore nordique. Si on peut trouver des similitudes entre tous ces mythes, on peut considérer la mythologie japonaise comme très différente. Elle est d'origine shintoïste et se rapproche du bouddhisme pour certains points. Certains disent qu'au commencement, trois dieux seraient apparus. Ils auraient dirigé le monde jusqu'à l'arrivée de leurs descendants sur Terre. Cette paire de dieux, donc, destinée à sauver les humains de leur dépérissement, selon les croyances. Ils ne se seraient cependant pas montrés à la hauteur et auraient apporté plus de mal que de bien. On peut tout de même constater que si la mythologie japonaise est peu connue, elle inspire de nombreuses traditions telles que les Daruma, les Koinobori et bien d'autres encore. Après avoir posé les bases de ces croyances, partons au corps d'une coutume bien plus fameuse, la cérémonie du thé. Car oui, elle fait rêver certains, tandis que d'autres ne s'y intéressent pas le moins du monde. Mais je tiens cependant à mettre un point d'honneur sur le fait qu'elle fait partie intégrante de la vie des Japonais. Cette cérémonie a pour but de se ressourcer en prenant une pause, un temps calme dans lequel s'accorder du temps. La curieuse boisson est essentiellement composée de poudre de thé matcha et d'eau bouillante, créant ainsi le fameux thé matcha. Certains ne peuvent se passer de ce thé vert particulièrement goûteux, tandis que d'autres ne supportent pas la simple idée d'en avaler. C'est ce qui fait toute la magie de cette cérémonie, car adepte du thé ou non, on y va. On prend du plaisir à passer du temps avec des gens que l'on aime. Passons à présent à notre dernière thématique du jour qui concernera les petites babioles que possèdent généralement les Japonais. Je suis consciente que si vous n'êtes pas un ou une adepte du Japon et de ses cultures, vous ne connaîtrez pas les objets quelque peu déconcertants dont je vais vous parler. Commençons par les koinobori ou carpes volantes. Au Japon, chaque printemps, le vent porte avec lui une tradition colorée, le vol des koinobori. Ces carpes volantes, hissées pour la fête des enfants, symbolisent la force et la persévérance des jeunes générations. Laissez-moi vous conter la légende issue de la mythologie à l'origine de cette tradition. Selon une ancienne légende chinoise, chinoise, une carpe koi qui réussit à franchir la cascade du dragon jaune se transforme en dragon. Cet exercice, réputé particulièrement éprouvant, fait de cet animal un symbole de force et de courage. Parlons à présent des Daruma, ces petits bonhommes rouges à l'œil généralement unique. Le Daruma est une figurine de papier mâché japonaise qui a la forme d'un moine bouddhiste. Un Daruma est surtout, dans la culture japonaise, une figurine à vœux, chance et prospérité. C'est aussi un culbuto, car la répartition des masses dans la statuette lui permet de toujours se redresser. On dessine la première pupille du Daruma en formulant un vœu silencieux, et s'il se réalise, on dessine le second œil. Bon, vous en voulez un petit dernier pour la route ?
Allez.
Le kitsune est un esprit renard japonais appartenant à la famille des yokai, créatures surnaturelles. Animal polymorphe, il possède de nombreux pouvoirs, dont celui de prendre l'apparence d'une jeune femme. On raconte qu'il serait le messager d'Inari, déesse du riz et du commerce. De nature rusée, ce yokai adore jouer des tours aux humains. Il est surtout connu en tant que renard aux neuf queues. Dis donc, on arrive déjà à la fin de mes explications. À présent, vous êtes incollables. Mais le Japon n'en finira jamais de nous surprendre. Alors ne manquez pas ma prochaine chronique pour en apprendre toujours plus sur le pays du soleil levant.
Merci beaucoup Elsa. Moi j'ai envie que tu me fasses un petit thé matcha déjà pour la prochaine fois. Et puis le renard à neuf queues, c'est comme dans Naruto.
Oui.
Donc c'est quand même une référence qu'on connaît, même si on ne connaissait pas le nom. Tu nous le rappelles, le yokai, c'est
le
ça
kitsune.
Le kitsune, rien à voir. Merci d'avoir écouté.
J'aime bien le Daruma.
T'aimes bien le Daruma ? C'est le, alors, le Daruma, c'est le
culbuto.
Le petit Bouddha culbuto. T'en as déjà fait, Elsa?
Un Daruma, oui, mais les autres.
Et ton vœu, il s'est réalisé, il a deux yeux ou il a qu'un seul œil pour l'instant?
Non.
Il a qu'un seul œil? Bon, donc c'est encore de l'espoir, ça va arriver. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a bien fait voyager. J'étais très contente de cette chronique sur le Japon. Bad Cave, toi, tu vas nous emmener un peu ailleurs.
Salut les amis, moi c'est Bad Cave. Laissez-moi plomber l'ambiance avec ma chronique post-punk. Vous prenez bien une petite cure de spleen? Mais si, c'est excellent pour la santé. Petite précision préliminaire, j'ai écrit cette chronique le 17 janvier 2025. Je déteste le mois de janvier. Robert Smith, le leader des cures, a déclaré qu'il l'avait aboli dans sa vie. Ce qui est pour nous le 1er janvier et pour lui le 32 décembre. Le 2 janvier, le 33 décembre et ainsi de suite jusqu'au 61 décembre avant de passer sans transition au mois de février. C'est que janvier est toujours une période faste pour la grande faucheuse. Elle emporte les vieux fachos qui ont tant joué avec nos cerveaux reptiliens, mais aussi les grands créateurs qui nous ont développé le néocortex. La mort de David Lynch le 15 janvier 2025 m'a plongé dans une émotion so post-punk. Un doux mélange de mélancolie et d'angoisse. Né dans les années 70, je suis un enfant de David Lynch. D'ailleurs, il était de la même génération que mon père. J'ai découvert son cinéma enfant, puis il m'a accompagné toute ma vie. Il a toujours donné l'impression d'être au cœur des préoccupations contemporaines et semblait s'adresser directement à moi, sur un ton malicieux et didactique, comme en disant « Étrange cette histoire, pas vrai? Les gens sont bizarres, tordus, cruels. Hein ? Pourtant, ils peuvent être aussi, pour les mêmes raisons, drôles, émouvants et même érotiques. » À chaque étape de ma vie, ces films ont été des événements qui ont donné du grain à moudre à mon activité cérébrale. Elephant Man, vu à 8 ans sur le petit écran, m'a fait cauchemarder longtemps. Ce film mettait le doigt sur une angoisse profonde. Et si mon corps devenait monstrueux, pourrais-je continuer à vivre sans sombrer? Pourquoi les gens sont-ils aussi cruels avec les personnes vulnérables? Y aurait-il quelqu'un pour me soigner, pour m'aider? Lost Highway et Mulholland Drive, vus au cinéma ou une fois devenu adulte, me plongeaient dans les méandres de l'identité. Suis-je à tout moment vraiment moi-même? M'arrive-t-il d'agir de façon rationnelle, irrationnelle, comme dépossédé de ma volonté? À quel point suis-je aliéné par des désirs refoulés ou bien imposé par la pression sociale? Enfin, plus récemment, dans L'âge mûr, j'ai dévoré la troisième saison de sa série culte Twin Peaks The Return. Cette fois, se posait la question de notre capacité à rester stoïque face à la violence, l'absurdité de certains comportements sociaux, à l'injustice parfois impossible à rendre. Pour autant, peut-on dire que le cinéma de David Lynch soit un cinéma post-punk? Il est au minimum un cinéma rock'n'roll. Il suffit de se plonger dans la bande-son de ses films pour en convenir. On y trouve en nombre des morceaux de petits et grands noms du rock, Elvis Presley, Gene Vincent, David Bowie, Chris Isaak, Rammstein ou encore Marilyn Manson que j'évoquais dans ma précédente chronique. Mais pour être vraiment juste, il faut rappeler ici son compositeur fétiche, Angelo Badalamenti. Né en 1937, mort en 2022, il était de formation classique, mais s'était converti à l'électrique et à l'électronique. Il a été le compagnon de route de David Lynch depuis Blue Velvet en 1986. Tous deux formaient un couple indissociable, et dès qu'on visualise une image de David Lynch, il n'est pas hasardeux de l'associer immédiatement à une nappe de synthétiseurs intense et mystérieuse dont Angelo avait le secret. Et inversement, impossible d'écouter une note jouée par Angelo sans penser au film de David Lynch. Pour le fan de post-punk, ces thèmes sombres, hyper réverbérés, électroniques, parlent immédiatement à notre sensibilité. Les groupes post-punk ne se sont pas trompés d'ailleurs, ils ont été nombreux à rendre hommage aux cinéastes sur les réseaux sociaux. Enfin, je rappellerai que David Lynch n'est pas seulement cinéaste, il était aussi peintre, sculpteur et compositeur. Pour conclure cette chronique Requiem, j'aimerais proposer à vos oreilles l'écoute de Good Day Today, sorti en 2011 sur l'album Crazy Clown Time. Pas d'analyse musicale cette fois, je vous livre simplement la traduction des paroles du morceau, elle sonne comme un au revoir. Je suis si fatigué du feu, de la fumée, de me noyer, de tomber si bas. Envoie-moi un ange, sauve-moi. Je suis si fatigué de la peur, des ténèbres. Envoie-moi un ange, je veux une bonne journée aujourd'hui, je veux une bonne journée.
Eh bien, j'espère que nos auditeurs ont une bonne journée aujourd'hui. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Est-ce que depuis, tu t'es retrouvé toi-même, Bad Cave ?
Oui, mais c'est difficile. Je remonte la pente petit à petit.
Très bien. Écoute, on te souhaite le meilleur. C'est marrant ce que tu disais avec ce duo réalisateur et compositeur. C'est souvent qu'on assiste à ça. Moi, j'aime beaucoup les films de James Cameron et souvent les musiques sont faites par James Horner. Et puis pareil pour George Lucas ou Spielberg qui utilisent beaucoup John Williams. On reconnaît souvent les notes, comme tu dis, et puis c'est associé, l'un va passant l'autre. Eh bien, merci beaucoup, chers chroniqueurs et chères chroniqueuses, pour cette matinale infernale. Merci à nos auditeurs. On leur souhaite donc un good day today, et puis demain, et puis jusqu'à la prochaine matinale infernale. Hein. On va être sympa avec eux quand même. Eh bien, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. On vous dit à bientôt dans une prochaine matinale
infernale!
So tired.